aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Pierre Hubert et Swan Vaud ici présents, qui ont accepté de venir. J'ai rencontré Pierre récemment à une jam. Je lui ai dit, ce serait cool que tu viennes parler de ces histoires d'endorsement. Surtout que je crois que c'est des questions qu'on te pose beaucoup. On pose souvent ce genre de questions. Et il a accepté vraiment à la cool. Je lui ai dit, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un d'autre? Et il m'a dit, ah, je connais un mec, un guitariste super, nanana. Et il a appelé Swan. Donc... J'aimerais déjà en fait un petit peu qu'ils se présentent, qu'ils parlent un petit peu déjà au moins de leur parcours, que toi tu me dises un peu d'où tu viens, on en a parlé tout à l'heure et tout ça, et voilà, donc Swan.
Eh ben bonsoir à tous déjà, merci d'être venu, ça fait super plaisir d'être invité ici. Bah du coup Swan Vaud, enchanté, pour ceux qui ne me connaissaient pas, du coup, tout bêtement je suis guitariste, ça fait un petit moment que je fais des bêtises sur des instruments à cordes en général, quoi. J'ai 21 ans et puis du coup mon boulot c'est sideman, donc j'accompagne les artistes sur leur tournée ou en studio, plus sur le live d'ailleurs que sur le studio, et également démonstrateur matériel, donc je travaille avec plusieurs marques en relation, qu'elles soient d'endorsement ou de partenariat ou autre, dans le cadre du coup de démonstration matérielle, hein, ça s'explique tout seul finalement, le nom est assez, assez clair comme ça, quoi, sur des salons ou en vidéo, en tournée, etc. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation rapide.
Moi, je vais faire à peu près la même. Du coup moi je m'appelle Pierre Hubert, j'ai 23 ans, je suis batteur professionnel. Comme Swan, moi je suis sideman, donc j'accompagne des artistes sur les concerts et j'enregistre également en studio. Et je suis aussi démonstrateur pour quelques-uns de mes sponsors. Soit je fais des masterclass organisées par la marque, soit un festival de batterie, par exemple pour Yamaha, un rassemblement de tous les batteurs Yamaha et on présente les produits au public, ou des vidéos promotionnelles sur YouTube, Instagram, Facebook, qui sont diffusées par les marques. Voilà.
Ok, cool. Bah, déjà, ça fait une bonne petite présentation. Alors, moi, une des premières questions en fait, que j'aimerais vous poser. Alors, Pierre, je crois que ça fait genre super longtemps que tu as eu ton premier endorsement. Yamaha, c'était à 15 ans
2015, donc j'avais 18 ans.
18 ans, ok, ah. D'accord. Okay. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ces points en fait, qui ont marqué un peu ta carrière, notamment orienté marque. Donc, quand est-ce que tu as signé ton premier partenariat avec une marque, quels sont les autres qui sont arrivés derrière? Donc, tu as parlé de quelques artistes. Je sais que tu joues avec Tom Ibarra. Que tu jouais, que tu joues?
Oui, je joue plus maintenant avec lui.
D'accord, ok. Mais ça fait peut-être partie des faits marquants, donc j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça déjà.
Ouais, ok. Du coup, mais pour revenir un peu au tout début, moi j'ai commencé la batterie, j'avais 4 ans. Donc vraiment, vrai coup de foudre, c'est mon père qui jouait à l'époque et du coup, il avait sa batterie dans la cave. Et je sais pas, j'ai été de suite attiré par la batterie. Déjà, je trouvais ça très beau. Et rien que ça, et je pouvais rester 2 heures à la regarder, genre comme ça, avec les yeux qui brillent, donc voilà. Et à 5 ans, je suis rentré dans une école à Bordeaux qui s'appelle Dant'Agostini. Je pense que s'il y a des batteurs dans la salle, vous connaissez cette école, à mon avis. Ouais, les bouquins aussi, solfège. Moi, je connais toutes les lignes par cœur, je connais tout, toutes les pages. Et du coup, j'ai commencé du coup, les cours à 5 ans, j'en suis sorti à 13. Donc pendant 8 ans, j'ai appris tout ce qui est... lecture, sur partition, technique. J'ai eu un prof qui s'appelait Dominique Marseille, qui était très très dur, mais qui m'a vraiment poussé très très loin pour développer la technique. Et je l'en remercie parce qu'aujourd'hui, j'essaye. Ouais, voilà. voilà. Non, donc, voilà. Et après, je suis rentré au conservatoire à 13 ans, à la suite d'Agostini, jusqu'à à peu près 20 ans. Donc, j'y suis resté 7 ans. Donc là, pareil, j'ai toujours continué les cours de batterie au conservatoire, mais aussi j'ai joué en groupe dans les ateliers. J'ai appris le solfège classique. Donc c'est vraiment la musique, j'ai appris la musique au sens large. Donc la combinaison des deux, j'ai pris en tout 15 ans de cours, quoi. Donc c'est bon. Voilà. Et après, quand j'en suis sorti, j'ai pu faire des festivals de batterie, en fait. J'ai été invité... par des organisateurs que je connaissais, c'est vraiment une histoire de réseau, et ils m'ont invité en fait à faire l'ouverture de leur festival, donc par exemple à Bordeaux, Drums Addict Festival, Summer Drum Show dans le sud, à Montluçon, enfin plein de festivals, et dans ces festivals, il y a toujours des exposants, il y a toujours les marques qui exposent le matériel. Donc il y a toujours Yamaha, Zildjian, Remo, toutes les marques qui sont représentées. Donc il y a toujours les représentants qui sont dans la salle, qui m'ont regardé jouer. Et vu que en l'espace de 2-3 ans, j'ai pu jouer à... j'ai pu faire 4-5 festivals, ils étaient là à chaque fois. Donc ils ont vu mon évolution, ils ont vu que j'étais présent beaucoup. Je jouais chaque fois sur Yamaha en plus, parce que c'est la marque dont je rêvais. Et ils ont vu et ils m'ont dit, bon, t'es encore un peu jeune, du coup, et attends quelques années, et puis t'auras peut-être une bonne surprise, et un jour, on te fera signer un contrat. Et quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont fait signer, du coup, mon premier contrat.
Voilà. Trop cool. Voilà.
Et à la suite de ça, ben, ça a été l'effet boule de neige. Yama m'a présenté à Zildjian pour les cymbales, qui m'a présenté à Remo, qui m'a présenté à Vic First, enfin, toutes les marques, et c'était vraiment l'effet boule de neige. Okay. Si j'étais allé tout seul, par exemple... voir Zildjian, peut-être ça aurait été un petit peu plus compliqué.
Ok, voilà. Okay, ça c'est quelque chose qu'on va reparler un petit peu, ouais. Justement, le process voilà. Qui te mène à signer avec une marque. Swan.
Alors, il va y avoir un trafic de micros dans cette salle.
J'aurais dû en prévoir 3, je vais pas gérer. Donc toi Swan, t'es fils d'acteur, de ce que j'ai pu comprendre.
Ouais.
Tes parents sont acteurs.
Ouais,
ok, d'accord. Fait. Quand est-ce que t'as commencé la musique et du coup c'est quoi toi l'effet marquant et tes premières signatures de marque, ce genre de choses?
Alors la musique, j'ai commencé ça super jeune. Techniquement j'avais pas de petite voiture ou quoi pour jouer quand j'étais gamin. J'avais les mini guitares là en 3/4 ou même plus petite, c'était vraiment mon jouet. Je faisais, ah, ça fait du bruit, je fais des fausses notes, enfin ce que je définissais pas encore comme des fausses notes, mais je voyais que ça énervait tout le monde, donc ça me plaisait vachement bien. Je me suis dit, je vais faire ça de manière un petit peu plus continue. Donc en fait, depuis que je suis tout petit, je travaille la guitare. Alors j'ai un parcours très différent de Pierre, du coup. Je suis complètement autodidacte de mon côté, donc j'ai jamais pris de cours. C'est pas par un manque d'envie de ma part, c'était plutôt par une situation de vie qui ne me permettait pas de faire ça. Donc je me suis débrouillé autrement dans toute, et c'est ça qui marque plus toute ma carrière jusqu'ici. Donc plus un parcours solitaire au départ, puis accompagné en rencontrant des gens. Donc mes premières signatures de marque, comme ça a été il y a, que je ne te dise pas de bêtises, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est Ministry of Tones pour les pedalboards, chez qui je suis d'ailleurs toujours. Ça s'est fait de manière assez drôle d'ailleurs, parce que pour le coup j'étais sur un salon, c'était le salon Guitare au Beffroi qui se déroule en mars à Montrouge. Et du coup sur ce salon, tout bêtement, je me retrouve à entrer en public en payant ma place comme tout le monde, et en me disant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de rencontrer du monde. Il y avait beaucoup de marques qui exposaient, beaucoup de gens, de musiciens évidemment. C'est à Montrouge, moi c'était mes premiers pas à Paris, donc c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et je trouve, mais alors vraiment histoire toute bête, je tombe sur un stand où en discutant avec le type, son démonstrateur matériel était absent, mais alors je sais plus du tout pour quelle raison, mais il pouvait pas assurer le truc. Et puis moi je lui dis, bon bah si je te fais quelque chose, tu me trouves un pass, tu vois. On essaie de trouver un deal comme ça, et je me retrouve à faire les démos à Guitare au Beffroi, alors que les noms que je côtoyais pour jouer là-bas étaient des noms que je voyais depuis tout petit sur internet ou dans les magazines, etc. Donc c'était un truc assez dingue pour moi. Et à partir de là, ça m'a permis de rencontrer du coup des gens qui m'ont amené derrière sur le contact de cette marque-là, Ministry of Tones, qui a été ma première signature. Après avoir découvert leur produit de pedalboard qui m'intéressait pas mal, j'étais en pleine recherche à ce moment-là. Et j'étais plutôt parti sur l'idée de concevoir un pedalboard avec eux, en tant que client tout bêtement. Et finalement, ça s'est transformé en deal... en deal d'endorsement pour ainsi dire, en fait, qui du coup nous a permis de développer des choses ensemble.
Ok, d'accord. C'est hyper intéressant ce que tu dis là-dedans. Garde le micro, ça on va faire après les échanges et tout.
Yes.
Je passe mon micro à Pierre. Donc c'est hyper intéressant ce que vous dites là, en fait. Alors moi, il y a un truc que je retiens, c'est que tous les deux vous avez rencontré votre première marque visiblement sur un salon.
Ouais.
C'est ça, je me trompe,
ouais,
pas.
Okay.
Ouais. Ça c'est déjà hyper hyper intéressant à savoir. Moi la question que je me pose aussi, c'est est-ce que au moment où vous avez rencontré, enfin vous étiez encore assez jeune, vous aviez pas non plus une notoriété incroyable.
Pas du tout.
Donc du coup la question en fait, c'est est-ce que vous pensez sincèrement que la notoriété est quelque chose qui a vraiment à voir avec le fait de signer une marque. J'ai beaucoup de musiciens qui me disent, mais signer une marque, il faut quoi? Il faut être Marcus Miller, faut être Vous voyez ce que je veux dire, faut être, faut... Ok, d'accord. Donc, vous, c'est quoi votre expérience là-dessus, est-ce qu'ils vous ont posé des questions là-dessus, les marques de manière générale?
Est-ce qu'ils nous ont fait un interrogatoire très poussé, monsieur, asseyez-vous, on va voir
CV,
qui vous êtes.
Que motive.
Je pense que la notoriété à avoir, quand même, y a... Ça dépend complètement de ce qu'on va chercher en réalité. Si là, demain, j'appelle, alors pour, s'il y a des guitaristes dans la salle, Fender, donc la marque iconique de guitare historique, forcément, si je les appelle en leur disant « vous me faites un modèle signature que vous vendez à 10 000 exemplaires », il va peut-être y avoir une discussion sur qui je suis au départ. Il est possible, il y a un moment donné où, pour ainsi dire, ils vont complètement me fermer la porte. Maintenant, l'idée, c'est que, avant toute chose, il s'agit d'une relation avec la marque, en fait. Donc, c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est pour ça que les salons ont été vachement utiles là-dessus, elles sont encore. Parce qu'on est au contact direct des marques qu'on utilise, mais c'est surtout une histoire de relation avec une marque, dans la mesure où ce sont des produits qu'on utilise, qu'on connaît et qu'on a envie de défendre, en fait. Donc à partir de là, on se retrouve à avoir une activité professionnelle, parce qu'au départ, effectivement, on n'avait pas du tout d'image publique. Je pense, en tout cas, moi, j'en avais pas, donc je parle pour nous deux. Mais du coup, par contre, j'avais déjà des concerts, je tournais déjà, c'était déjà mon métier depuis quelques années. Et à partir de là, l'idée a été de développer, de participer au développement et au rayonnement d'une marque, connue ou non, en exposant et en mettant en avant ces produits que j'utilisais déjà d'ailleurs par ailleurs, en fait. Donc voilà, c'est pas... Il y a une idée de notoriété, effectivement, selon ce qu'on vise. Si c'est nous qui allons taper à la porte, évidemment, comme à n'importe quel entretien d'embauche, on va vous demander qui vous êtes, on va vous demander votre CV, etc., vos motivations. Mais dans le cadre d'une rencontre, c'est différent. C'est pas, ça peut compter, mais c'est pas l'idée principale.
C'est vrai. Et moi, du coup, oui, à peu près pareil. C'est-à-dire, par exemple, pour Yamaha et tout, au début, forcément, quand j'avais... Attends, il branchait le micro ? C'est moi qui parle pas assez près, à mon avis. Ouais. Et par rapport à Yamaha, forcément, en 2010, pareil, le niveau de notoriété, mais j'avais 13 ans. Donc forcément, j'étais encore à l'école, encore chez Agostini, j'étais pas très très connu. Facebook, Instagram, j'avais pas de compte, donc j'étais présent nulle part. C'était juste mes parents qui me prenaient en photo, enfin voilà, comme des parents normaux. Et... après, évidemment, ils m'ont posé beaucoup de questions. Quand ils m'ont vu jouer, ils sont venus me voir. Par exemple, Yamaha, il y avait toute l'équipe. Et ils me disaient, en gros, bon, là, t'as 13 ans, t'es à l'école, c'est bien. Ils voyaient que j'étais sérieux, que je voulais en faire mon métier déjà. Ça, j'étais sûr de moi. Parce que si je leur avais dit, oui, je joue, j'aime bien ça, mais je vais continuer des études et peut-être pas me partir là-dedans, ils m'auraient dit, ah ouais, donc on va peut-être attendre. Il m'aurait dit ça gentiment, ça voulait dire « bon, on ne pourra rien faire avec toi ». J'étais déterminé, et surtout le fait de jouer dans ces festivals-là où il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de pression, parce qu'en plus, à un âge comme ça, ce n'est pas évident. Il y a des caméras partout, des écrans géants, il y a tous les grandes stars de la batterie sur le côté qui te regardent. Enfin, c'est vrai, c'est quand même, ça peut être intimidant. Et ils ont vu que j'étais tellement passionné que franchement, limite, j'en avais rien à faire de tout l'environnement. Moi, j'étais dans mon truc, j'étais sûr de moi, vraiment. Sans prétention, j'étais sûr de moi, je savais que je voulais faire ça. Donc ils se sont dit, ok, lui, il a un bon potentiel, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec lui dans les prochaines années. Le style de jeu, ils ont vu comment jouer, ça les intéressait. Ils ont dit, bon, bah, écoute, c'est jeune, on va attendre un petit peu, puis... Voilà, 5 ans plus tard, ça a marché.
Ça reste un très bon pari de leur part. Alors, concernant l'endorsement, en fait, il me semble qu'il y ait plusieurs niveaux de contrat. Donc, il y a différentes façons d'être endorsé. Donc, tu as les gens qui sont, j'imagine, endorsés, qui ont des modèles signatures. Il y en a qui vont avoir du matériel gratuit, d'autres des réductions. D'autres, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, déjà ? Toi, en fait, quel genre de contrat tu as avec eux ?
Carrément, je pense que pour la batterie, ça marche pas trop pareil que pour la guitare.
Il y a des choses différentes. Il y a des différences pour les instruments. Ok, cool.
Ouais, tout à fait. Ouais, mais je vais prendre les. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, Zildjian, qui est la marque de cymbales chez laquelle je suis. Il y a 3 contrats différents. Il y a 3 niveaux de contrat. Par exemple, le contrat A, c'est le plus petit qu'on puisse avoir. Ça va être des remises sur le matériel. Donc, on peut avoir, par exemple, de 10 à 50% de remise. Mais on va payer quand même la cymbale. Par contre, le point positif, même si on paye, c'est que la cymbale est à nous. Si on la paye, elle est à nous. Donc on la garde. La marque va pas nous la demander 6 mois plus tard. Après, on a un contrat, le contrat B au-dessus, ça va être du prêt. Donc là, du prêt, on peut choisir, alors pour ma part, par exemple, je peux choisir 8 cymbales dans le catalogue, peu importe le budget, peu importe la série, et je vais commander ça, et ils me les envoient une semaine plus tard. Et le souci, c'est que dans 2, 3, 4 ans, il n'y a pas de durée déterminée, mais un jour ou l'autre, il faut que je les rende. Elles ne sont pas à moi, c'est celles que j'ai là. J'ai l'impression qu'elles sont à moi, je les joue tous les jours, bon, il y a des traces de doigts dessus et tout, mais elles sont pas à moi, je dois les rendre. Voilà. Et le contrat C, donc le contrat en or, qui est juste très 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 rare, c'est limite du don en fait. On donne du matériel. Donc par exemple, je parle de, par exemple pour Manu Katché, qui est un batteur, je pense que au moins le nom doit vous parler. Lui, il demande, il appelle Jan, il demande 15 cymbales, le lendemain il reçoit les 15. Et elles sont à lui, on lui donne. Mais en France, il n'y en a qu'un qui a ça, c'est lui. Okay. Tous les autres, même ceux que vous voyez jouer à la télé sur les zéniths, sur les grosses grosses scènes, ils ont le même que moi. C'est du prêt, donc elles sont pas, c'est pas à eux. Voilà, pareil pour les batteries, pareil pour tout. Hein. C'est ça, exactement. Et là, exactement. C'est déjà pas mal. Ah non, mais oui, tout à fait. C'est vrai. Et le pourcentage à peu près, en tout cas pour Ziljan, on va dire qu'il y a 50% des artistes qui payent les cymbales et qui ont une remise dessus, et 50% qui ont un prêt. Et 0,01% qui on leur donne. Donc c'est moitié-moitié. Et ça, les différents niveaux de contrat, évidemment, c'est pas nous qui choisissons, c'est la marque. Sinon, on prendrait tous. Voilà. Et c'est la marque qui choisit. Et ça, c'est en fonction de plein de paramètres. Genre, ils vont regarder nos réseaux sociaux. Genre, voilà, ça c'est aussi important. La fanbase qu'on a, est-ce qu'on a beaucoup d'abonnés ou pas, est-ce qu'on met beaucoup de photos, est-ce qu'on met beaucoup de vidéos de qualité ou pas, ça compte, les artistes qu'on accompagne, le nombre de dates qu'on fait dans l'année, très important. Après, c'est vrai que je prends un exemple, voilà un exemple qui me vient, un batteur qui est excellent mais qui joue que dans des caves de jazz, des clubs, qui communique pas beaucoup sur les réseaux sociaux, là ça va être très 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 compliqué parce que la visibilité va être très 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 faible. Alors qu'un batteur qui va faire beaucoup de dates avec un artiste connu, on va le voir sur des grosses scènes à la télé ou autre, là ça va les intéresser. Donc c'est eux qui déterminent ça. Voilà.
Du coup, comme je viens de l'apprendre, visiblement c'est un petit peu différent pour la guitare. Est-ce que tu peux nous parler toi de tes endorsements, comment ils fonctionnent,
ouais.
et tout ça?
Alors c'est un petit peu différent, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, mais ce que je note notamment, c'est l'histoire des niveaux d'endorsement dont j'ai très très rarement entendu parler en guitare, pour le coup chez n'importe quelle marque. Bon, après ça doit exister quelque part, je pense que c'est pas complètement idiot que ça se recoupe, mais la guitare, il y a des... Bah, de même que pour les baguettes des batteurs par exemple, nous on utilise énormément de consommables, des médiators, des cordes, des jacks, des choses mais qu'on achète en quantité. En plus on achète des médiators, on en achète 15, on fait nos fonds de poche, on l'a tous fait... donc ce sont des choses qui, alors en prêt, je vais pas vous cacher que ce serait pas super utile, parce que vu comment, qu'on rigole, voilà c'est ça, qu'on rigole un coup, je suis tombé sur le seul qui est neuf quoi, c'est quand même pas de chance, mais les autres sont rongés, c'est un truc de malade, moi je veux bien les rendre mais ils vont faire la gueule honnêtement. Non mais voilà, donc on est sur des, par exemple moi pour mes endorsements, les cordes, j'ai la chance de ne pas les payer, en revanche, dans une mesure, selon les périodes d'activité, c'est-à-dire que je vais enregistrer un album pour un chanteur où je pars sur une tournée de 10-15 dates, un mois avec lui, là je peux tout à fait être en capacité d'appeler le représentant de la marque avec qui je suis en contact ou n'importe qui dont j'ai le contact, et du coup à partir de là, je pense à Savarez, du coup les cordes chez qui je suis signé, qui du coup me disent qu'il est possible d'envisager ou pas. Il y a aussi des pourcentages de réduction qui existent. Alors encore une fois, sur les cordes et médiators, ça n'a pas grand sens dans la mesure où ce sont des consommables immédiats. En revanche, sur des guitares, là on peut parler de pourcentage de réduction de prix artiste. Encore une fois, j'ai rarement entendu parler de niveau de prix artiste, mais il est possible que ça existe. Mais dans la mesure où une guitare, comme les fûts d'une batterie, c'est un objet précieux, qui a une valeur financière qui est loin d'être négligeable, on est très rarement dans le don.
Donc ça, c'est quelque chose qui est important de noter et surtout de ne pas faire d'erreur. L'endorsement, ça ne veut pas dire matériel gratuit. Ça ne veut pas dire... En fait, je reviens sur l'idée de relation, j'appuie un peu ça. Mais c'est vraiment une histoire d'échange entre les deux parties. C'est-à-dire qu'on va faire des dates, on va vraiment mettre en avant du matériel qu'on utilise déjà. C'est pas, en général, c'est quand même une mauvaise idée, la plupart du temps, d'aller voir une marque qu'on connaît nous, dont on n'utilise aucun matériel, et de leur dire « envoyez-nous du matos gratuit ». Même si on tourne... moi aussi ça me fait rire, mais j'en entends, quoi. C'est un truc de malade. C'est vraiment une espèce de mauvaise conception qu'il y a autour de ça. On a la chance d'avoir Alexandre Hernandez dans la salle qui dirige les pédales Anna Sounds. Et qui a une réponse relativement catégorique. Donc bon, voilà. Donc c'est vraiment légèrement différent là-dessus, mais je pense que quand même beaucoup de choses se recoupent en entendant les dires de Pierre. Quand même.
Ok, d'accord. Là, c'est hyper intéressant. On a vraiment parlé du côté matériel et tout ça, ce que vous en retirez et tout ça. Je pense que, enfin, vous me dites si je me trompe, mais ça m'a l'air d'être aussi une façon de parler de vous aussi. Enfin, la marque, vous avez peut-être probablement d'autres bénéfices à travailler avec les marques que simplement du matériel. Donc qu'est-ce que c'est en fait les bénéfices? J'imagine il y a des salons, vous représentez la marque, d'autres choses, parle de vous.
Voilà, c'est ça. Il y a des salons, il y a de l'exposition qui va avec, parce que pour peu, alors encore une fois, dans une histoire de constance, de qualité, c'est-à-dire qu'il faut produire du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, y être présent. Évidemment, c'est pas une très bonne idée de dire du mal de la marque quand on est signé chez la marque. Est-ce que je vous apprends quelque chose là-dessus? Techniquement, c'est un peu chaud. Mais la relation d'endorsement ne se résume pas à du matériel, ne se résume pas du pragmatique, du matos en fait. Tout bêtement, il y a une histoire d'exposition derrière qui peut aller, la marque peut vous accompagner. Je pense à toi Pierre, qui est vachement relayé aussi là-dessus, je vois pas mal de trucs passer de toi. On va y arriver sur les micros. Mais où effectivement, oui. On produit une vidéo, par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu la chance que Savarez la repartage. Des fois, certains, même c'est des marques où on n'est pas signé, repartagent des produits qu'on fait, des médias qu'on a, tout bêtement. Donc à partir de là, c'est vraiment une idée humaine en fait derrière, tout bêtement. Il y a de l'exposition, on peut avoir des contrats qui découlent de ça aussi. Je fais des démos régulièrement sur des salons où je suis rémunéré sur le fait de faire ces démos. Ce sont des cachets d'intermittents. On joue, on fait un concert qui soit... Enfin voilà, ça reste une représentation publique.
Ouais. Pareil pour moi. En fait, oui, t'as raison. Ça se résume pas qu'à l'aspect matériel. Et malheureusement, la grosse erreur pour moi que font beaucoup, par exemple, de batteurs, c'est qu'ils veulent absolument être endorsés chez une marque pour avoir du matériel gratuit. Genre c'est que ça qui compte, que l'aspect matériel. En fait, non, c'est pas ça. Effectivement, déjà, il faut aimer la marque. C'est sûr qu'il ne faut pas la critiquer, ça c'est sûr. Mais il faut aimer la marque concrètement. Moi, j'ai du mal avec les batteurs qui vont accepter la première demande qu'on va leur faire, par exemple. Ouais. Genre une marque de cymbales qui va te compter. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Même en étant endorsé chez Zildjian. J'ai des marques qui me proposent, oui, on te fait un super truc, 10 cymbales, tu choisis ce que tu veux, mais c'est une petite marque qui est en développement. Et je me dis, je suis sûr qu'ils ont envoyé ce message à 300 autres batteurs, c'est certain, et il y en a plein qui vont accepter. Alors que la qualité, on ne sait pas ce que c'est. Déjà, il faut tester les cymbales, il faut voir les gens en vrai, déjà. Faut voir si c'est vraiment vrai, 10 cymbales, parce qu'ils te disent 10 cymbales, mais au final ils peuvent te dire oui, mais en fait il y a la moitié où il faut payer 50%, enfin il y a des embrouilles des fois. Ouais, il faut faire très attention. Donc pour moi, voilà, faut aimer la marque et effectivement on peut les représenter à travers des festivals, pour moi des festivals de batterie, des masterclass, c'est quand même génial. Les festivals de batterie, j'ai par exemple Yama Drum Show. Pour mon exemple perso, j'ai l'occasion de jouer avec Manu Katché, Loïc Pontieux, Dave Wakel même, qui est mon idole. On est quand même présent, je joue sur le même festival qu'eux, c'est quand même génial. L'expérience qu'ils ont, ben, je les regarde en balance, je les regarde, je regarde comment ils gèrent. Enfin, c'est quand même, ils font partie des meilleurs en France et des meilleurs du monde, donc j'essaie de m'en inspirer au maximum. Et effectivement, la visibilité est quand même énorme, notamment Yamaha. Sur Instagram, Facebook, ils doivent cumuler en tout 1 million d'abonnés. Donc quand ils partagent une vidéo à moi ou une photo, déjà ça fait très plaisir. Ça se voit qu'ils comptent sur moi, donc c'est cool. Et pour moi, c'est tout bénef. Parce que forcément, avec le nombre de gens qui sont abonnés, il y en a qui ne me connaissaient pas, qui vont me découvrir. et ça peut aussi déboucher des fois sur des concerts, des propositions de dates, des propositions de tournées. Et c'est vrai que, alors c'est vraiment, là c'est que de l'image, mais rien que de mettre, je sais pas toi Swan, ce que t'en penses, mais de mettre sur Instagram, par exemple endorsé par Yama, Zildjian, Remo, etc. Ça m'est déjà arrivé qu'on me propose un concert et qu'on me dise, ah tiens, est-ce que ça t'intéresserait et tout, parce que on m'a jamais vu jouer, mais juste le fait qu'il y ait les marques, on se dit, ah ouais, Yama, forcément, c'est un batteur de ouf, forcément, parce que c'est, ça, ça brille quelque part.
Complètement,
C'est juste l'image. Ouais. Donc,
c'est ouais, non, complètement, ça apporte de la crédibilité. Enfin, ouais, oui, ça apporte de la crédibilité, on peut le dire. C'est quelque chose qui, quand on recherche le nom de la personne, tomber sur ses pages artistes, sur des sites, forcément, ça te donne du corps quelque part. Ça te... Donc dès le départ, on a un truc où effectivement, quand on travaille avec une marque, tout est lié en fait. Au départ, j'avais pas du tout prévu dans mon chemin professionnel de faire de la démo matos. Mais alors, c'est un truc, je savais à peine que ça existait. Pour moi, c'était des artistes qui représentaient des marques, mais j'avais vraiment pas ce côté un peu derrière le rideau, où en fait il y avait vraiment des gens qui étaient payés pour faire de la démo sans être des artistes, sans être Stevie Wonder, sans être John Mayer, même s'ils font ça assez bien, John Mayer quand même, on connaît tous sa guitare maintenant, hein. Là, ça a un peu fait un séisme médiatique de dingue, il est bon le petit, non mais voilà, donc en fait tout est lié. Sur les salons, on rencontre des gens qui tournent, forcément les salons s'adressent à des musiciens, à des amateurs de musique aussi. Et encore heureux, ce serait très très stérile que ça reste entre professionnels, purement entre professionnels, ce serait un peu bizarre, très consanguin quoi tout ça, si tu veux. Mais voilà, donc en fait finalement les concerts vous amènent à rencontrer des responsables de marque, des représentants de marque, qui eux vous amènent sur des salons, où l'inverse peut se produire, tout est lié. Donc en fait à un moment donné, ça va vous permettre d'étendre votre réseau professionnel, d'étendre vos casquettes aussi, tout bêtement. C'est vraiment un outil de plus à votre disposition.
Ok, super. Ça fait vraiment, vraiment énormément de belles choses, en fait, d'être endorsé. Alors, je pense qu'il y a une question aussi assez pragmatique, moi en tout cas, qui me vient. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés à être endorsé par une marque? J'entends, est-ce qu'il y a des clauses particulières qu'il va falloir respecter, qui vous empêchent? J'imagine qu'il y a des clauses d'exclusivité.
Complètement.
Ok.
Ouais. J'ai deux petites anecdotes aussi d'ailleurs que je vous raconterai après. Ben en fait c'est pas des mauvais côtés, mais c'est qu'on va être obligé quelque part de jouer sur la marque qui nous endorse. Quelque part c'est normal, mais en même temps quand on ne joue pas sur notre matériel, alors Swan il est guitariste donc il a toujours sa guitare avec lui, moi en tournée j'ai pas ma batterie, et suivant les sociétés de location, les pays ou autres, j'ai pas forcément une Yamaha sur place avec toute la config que je veux. Donc je peux me retrouver sur une batterie Tama, une batterie Pearl, une batterie d'une autre marque. Et là, concrètement, il va falloir que je demande, par exemple, à scotcher le logo de la marque. Tous les petits badges. Voilà, il faut que je demande ça aux techniciens. Alors, quand les techniciens sur les concerts, ils sont gentils, ils comprennent. Quand ils peuvent être un petit peu moins cool, ce qui est rare, ils peuvent me dire en gros pour qui il se prend celui-là quoi. Genre il est endorsé, il se prend pour qui, il veut qu'on mette du scotch et tout. Donc il faut toujours être courtois et expliquer oui, je suis obligé parce que je suis endorsé. S'il y a des vidéos, quand c'est filmé, c'est repris sur les photos, les vidéos, après on va se faire engueuler, je me fais engueuler. Donc, en même temps c'est normal. J'ai pas à faire de marque. Enfin, j'ai pas à faire de pub pour une autre marque, en fait, quelque part. Ils me prêtent du matériel qui est quand même très cher. Ils me font confiance, c'est pas pour que je mette une photo d'une batterie Pearl en disant « Ouais, génial !» Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, ça faisait 6 mois que j'étais endorsé, voilà, donc en 2015. Et ils m'avaient déjà prévenu qu'il fallait que je fasse attention sur les photos, les vidéos et tout. Et j'étais en studio, j'ai enregistré 2-3 pistes pour un album, voilà. C'était une batterie Gretsch. J'ai fait attention de ne pas prendre la photo de face avec le gros logo Gretsch, évidemment. Je l'ai prise du dessus, donc on voit les pots, on voit les cymbales et tout. On voit quasiment rien, on ne peut pas griller que c'est Gretsch. On voyait juste un petit badge sur la grosse caisse, miniature. Il n'y a que les puristes qui peuvent savoir que c'était Gretsch. Ben, le lendemain, Yama m'appelle et ils me disent tu enlèves la photo, genre... pas méchamment, mais en mode un peu strict pour donner un peu la leçon, parce que je venais de rentrer. Genre, t'enlèves la photo, tu n'as pas à faire de pub pour Gretsch. Si, en gros, en rigolant, ils m'ont dit, bah, sinon, va chez eux, genre, si les batteries sont meilleures. Voilà. Voilà. C'est pas le genre de truc qui plaît, ouais. Donc depuis, j'ai retenu la leçon.
Depuis, Yamaha, c'est vraiment très 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 bien.
Génial.
Ouais, j'ai le même genre d'anecdote que toi. Il y a pas très longtemps, c'est rigolo. J'étais sur un concert à Grenoble avec une chanteuse et elle prend une story Instagram. Mais alors le truc où elle me tag dedans, elle me demande pas. Bon, c'est pas très grave, ça se fait tout à fait sur Instagram. Et elle était en train de changer ses cordes. Et là, mais alors en plus, le truc génial, c'est qu'elle change ses cordes, mais qu'il y avait d'autres artistes qui jouaient. Il y avait des paquets qui traînaient de partout. Et alors là, je vois Elixir, je vois Dadario, etc. Puis elle poste la story. Et je reçois un coup de fil le lendemain. Et on me fait... J'avais rien reposté ou quoi, repartagé, mais il faut faire attention. Elle poste la story, donc on me voit sur la photo. Et je reçois un coup de fil le lendemain, très gentil. Tu vas bien ? Oui, au fait, t'as encore du matos à retirer au bureau. C'est drôle, enfin, je me dis, c'est drôle, ils m'ont pas relancé la semaine dernière, j'étais en tournée, machin. C'est drôle qu'ils se souviennent de moi à ce moment-là. J'arrive au bureau et puis là, je me prends une petite remarque, effectivement, dans la même idée. Oui, au fait, tu feras attention aux stories de ta chanteuse, machin. Je vais engueuler la personne qui m'engage, c'est vrai. Je vais faire ça. Donc là, on se retrouve coincé entre deux trucs. Mais il faut faire attention à son image à partir du moment où on est. De toute manière, à partir du moment où on a une image publique, où on est musicien professionnel, où on fait des concerts, on est exposé. C'est de la représentation. Donc l'image, elle est primordiale. Et je dis ça pourtant, j'ai pas du tout l'esprit, et j'ai beaucoup de mal à avoir cet esprit de soigner mon image. J'ai l'impression que ça fait, tu vois, c'est ce que tu disais sans prétention, j'ai l'impression que ça fait péteux tout de suite. Ouais. C'est difficile de se dire activement, je vais faire attention à mon image, je ne vais pas poster ça. La photo, elle peut être magnifique, la vidéo, elle peut être cool, vous pouvez très bien jouer à un moment donné. Mais voilà, bon, ce sont des clauses d'exclusivité, donc il faut les respecter comme dans n'importe quel contrat. À partir de là, en revanche, c'est pas toujours le cas. On n'est pas obligé en permanence de jouer sur du matériel, sur certaines marques, certains endorsements. Même si on a un endorsement acté avec un contrat, il faut bien lire les contrats. Enfin, c'est bête, mais lisez bien les contrats. Il n'y a pas toujours une clause d'exclusivité dedans. Et elle est discutable comme n'importe quoi qui se trouve dans un contrat. Donc à partir de là, il s'agit de faire attention à ce qu'on signe aussi, quoi. Comme toi, tu vois, quand tu parlais, c'était pas Gretsch, c'était la petite marque qui t'avait envoyé, de cymbales qui t'avait envoyé des trucs. Je suis volontairement pas endorsé à certains endroits où je sais que j'aurais du mal à respecter de l'exclusivité. Comme des batteries, le son de guitare est drastiquement différent. Mais là, j'ai une Telecaster de Fender avec moi. Si je prends une Gibson Les Paul, mais ça n'a plus rien à voir. Bon, alors moi, je peux pas m'encadrer les Gibson, mais ça, c'est mon problème. Voilà, donc, c'est bon, c'est acté. Je signerai pas Gibson, ça, c'est certain. Mais c'est... voilà, c'est ça. Je suis désolé, les amis, mais toujours est-il que deux guitares ont un son drastiquement différent et ouais. Une marque ne fait pas tous les sons. Comme pour les batteries, en fait. Si ouais, je vais chercher des guitares de métal chez Fender, bon, il y en a, mais c'est clairement pas ça qui est. Voilà, il y a des choses plus évidentes qui me viennent à l'esprit. Donc à partir de là, on m'a proposé, moi, plusieurs marques de guitares m'ont proposé des endorsements où il y avait de l'exclusivité, où c'était des instruments aussi que j'utilisais pas forcément au départ, où j'avais fait une démo, où j'avais fait quelque chose, j'avais travaillé avec eux, mais on m'a proposé des contrats qui ne me convenaient pas, et il m'a paru important de refuser à ce moment-là pour ne pas compromettre mon image, et puis simplement rester honnête vis-à-vis de moi-même aussi, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, donc je n'ai pas à me forcer à utiliser ça après. Ce serait pas être juste vis-à-vis de soi-même, et même pas être d'ailleurs le meilleur défendant de la marque, tout bêtement.
Ok, cool. Ça fait déjà pas mal de choses sur ces histoires de contrats, c'est hyper intéressant. Alors, une des questions qui me vient et que pas mal de gens aussi m'ont posé avant la conférence, c'est, alors, avec qui est-ce que vous traitez directement ? Est-ce que vous traitez directement avec la marque ? Est-ce que vous traitez avec l'importateur, le distributeur ? Dans le cas d'Yama, j'imagine qu'il y a un réseau qui est immense. Dans le cas de petites marques plus françaises, ça doit être plus facile. Je pense que tu travailles en direct avec la marque. Donc en gros, qui sont vos interlocuteurs là-dessus ? Ouais.
Pour moi, c'est vraiment les gens de la marque. Après, par exemple, pour prendre toujours l'exemple de Yamaha, il y a trois niveaux. Il y a Yamaha Monde qui donne les directives à Yamaha Europe, qui donne les directives à Yamaha France. Voilà. Oui. Yamaha Paris, Yamaha Bordeaux.
Et ouais, exactement.
Donc moi, j'ai toujours les gens de la marque en contact, et c'est quand même beaucoup mieux que des importateurs, parce que déjà les gens de la marque, ils connaissent leur matériel par cœur. Donc moi, je peux passer 2 heures au téléphone avec eux pour leur demander quels sont les nouveaux produits qui sortent, qu'est-ce que tu me conseilles ? Ils me connaissent par cœur, ils connaissent mon jeu, donc ils disent ah ben ouais, toi ça va bien te plaire ce qui va sortir là. Ils me connaissent par cœur, les importateurs, ils sont en mode business, genre oui, tu veux qu'on t'envoie 300 balles, on te les envoie. Ok, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vraie relation, c'est un peu que du business. Là, c'est vraiment l'esprit famille, surtout qu'avec tous les gens de la marque, on se connaît par cœur. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est on se connaît par cœur, on sait, oui, c'est un esprit famille complètement. Donc Yama, c'est les gens de la marque, Siljan, c'est les gens de la marque, Remo, pour les pots, c'est la seule marque où je suis en relation avec l'importateur, en fait, c'est la seule marque. Après, toutes les autres, c'est les gens de la marque, donc pour la proximité, c'est beaucoup mieux.
T'as des marques un peu plus petites aussi. Alors, il y en a une qui me fait bien rire et j'arrive pas à prononcer le nom, celle des fringues. RLRLLRR.
C'est RLRRLRL. En fait, c'est un.
Right left, right left, right left.
Oui, oui, c'est ça.
C'est un paradiddle.
C'est un paradiddle, en fait, pour les batteurs, les moulins. Voilà. Et oui, petite marque. Et c'est Thomas Milo, si tu vois la vidéo. Thomas Milo qui gère ça. Exactement. Et je suis en contact directement avec lui. Il est tout seul à gérer sa marque. Donc là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Et avec lui, d'ailleurs, c'est un pourcentage que j'ai. Il ne me donne pas les t-shirts. Il les donne quasiment à personne, sauf aux grandes têtes d'affiches internationales. Donc j'ai une remise de 50% à peu près sur les t-shirts.
Voilà.
Yes. Ce serait bizarre qu'ils te les prêtent, les t-shirts aussi.
C'est du prêt. Je les renvoie.
je...
Alors il y a évidemment il y a aussi des importateurs pour la guitare, des sociétés d'importation. Personnellement, j'aime pas trop dealer avec les importateurs dans la mesure où effectivement c'est que du business. Tu vas pas avoir le sentiment. Alors dealer avec eux pour de la démo, c'est pas un souci. Évidemment, c'est même très pratique vu qu'ils ont le stock. Donc à un moment donné, ils sont quand même là pour ça. En revanche, il y a d'autres avantages à dealer avec un importateur pour le côté vraiment matériel, c'est-à-dire recevoir du matos très très facilement, très rapidement, avoir des fonds à disposition un peu partout selon où sont leurs stocks. En revanche, signer avec un importateur, moi ce qui me dérange, c'est qu'on signe pas avec la marque. Typiquement, je prends l'exemple, je sais pas qui est l'importateur de Fender, ils sont peut-être en direct en France. C'est Algam Fender ? Ah, non, c'est pas
Algam. Moi, je suis chez eux. Et non, c'est pas Fender. Ah si, c'est pas avec Gretsch là ? Ouais, c'est Fender et Gretsch.
Bah oui, Gretsch
sont ensemble, je crois.
C'est la même boîte. Ça. On révisera nos importateurs pour la prochaine fois. Tu couperas la vidéo. Non,
Toi, tu es viré.
C'est voilà. Non mais voilà, alors en fait le problème, si jamais on signe avec un importateur, c'est que la marque peut ne pas nous connaître. Et ça, je trouve ça assez dommage. Vraiment terrible de se porter garant d'une marque qui ne nous connaît pas. Et qui du coup d'ailleurs ne peut pas nous aider. C'est même pas négatif ce que je dis, c'est plein de bonne volonté. Ils nous connaissent pas, ils savent pas qui on est. Ils peuvent pas regarder tout ce que partagent leurs importateurs, etc. Et l'importateur, lui, a aussi des réseaux qui sont purement commerciaux, qui sont pas du tout des réseaux d'artistes, de scènes, de concerts, de festivals, etc. Enfin, ça peut l'être, mais pour des raisons de location de matos, beaucoup plus, enfin, de transit de matériel. Donc, j'ai eu le cas d'ailleurs avec cette histoire avec une marque qui m'a proposé de signer avec elle. Bon, du coup, ça ne s'est pas fait parce que pour les guitares, je voulais rester, etc. libre. Mais du coup, c'est vachement rigolo, je leur dis non, mais on bosse un peu ensemble, on fait quand même des trucs de démo. Et 6 mois plus tard, je tombe sur l'importateur qui ne me connaissait pas dans un salon, qui lui me dit oh bah tiens, viens signer chez moi, je te présenterai les mecs de la marque. Donc là, on se dit que c'est un peu le truc à l'envers, du coup, en revanche. Donc signer avec un importateur, ça peut être bien, mais ça n'aura pas exactement la même portée, vraiment même pas du tout, pas exactement, ça n'aura absolument pas la même portée qu'avec la marque directement, et pas la même signification non plus. Ce sera beaucoup plus catégorisé commercial, business, comme tu le disais tout bêtement. Donc, ouais, travailler avec la marque, ça me paraît, c'est pas un mauvais choix de travailler avec un importateur, c'est un autre choix, mais pour moi, ça me paraît plus important de bosser avec la marque quand même, histoire d'avoir une vraie relation là-dessus.
Ok, cool. Merci pour ces super conseils. Alors, il y a une dernière question avant qu'on passe à vos questions. Si vous en avez, j'espère que vous en avez. C'est alors, forcément, ça fait rêver de signer une marque. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu des vraies questions à se poser en tant que musicien avant de vouloir vraiment signer avec une marque. Je pense qu'il y a plein de gens qui vous disent, quand ils savent que vous êtes signé chez Yamaha, Intel, ils font, ah ouais, moi aussi, j'aimerais être signé, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah moi aussi, j'aimerais signer chez Savarez, comme ça, j'ai des cordes gratuites, ou chez Vic Firth, comme ça, j'ai des baguettes gratos. Donc, en fait, je pense que j'imagine qu'il y a des questions à se poser avant d'aller vers les marques. Est-ce qu'il y a des manières de le faire? Bref, en gros, quels sont vos conseils à un musicien qui vous dise je veux signer chez quelqu'un?
va falloir démêler les câbles après ça.
Les conseils que je donnerais, déjà, premièrement, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Déjà, je vois beaucoup de musiciens de notre génération déjà qui communiquent pas sur ce qu'ils font. Donc, si on publie pas sur Facebook, Instagram, YouTube, des photos, des vidéos, même si on n'a pas trop de concerts, mais des vidéos où on te voit jouer, déjà, c'est impossible qu'une marque te repère, déjà, impossible. Et même, même se créer un réseau, si des musiciens te voient, etc., voilà, pour proposer des concerts, voilà, exactement. Et il y en a beaucoup, malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc déjà ça, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, par rapport à des... oui, il y a beaucoup de batteurs qui pensent qu'en faisant des vues, par exemple sur Internet, sur YouTube, en faisant 10 000, 20 000, 30 000 vues pour des covers, ben forcément ça fait beaucoup de vues et on va intéresser des marques. C'est faux, parce que si on... et ça c'est une question qu'on me pose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est faux. Pour moi, je connais un cas de quelqu'un qui s'est fait endorser parce qu'il fait beaucoup de vues. C'est un batteur, qui est youtubeur, qui s'appelle Adrien Drums. Et ce batteur-là, il a à peu près 150 000 abonnés et il fait à peu près entre 2 et 5 millions de vues par vidéo. Donc là, par contre, c'est énorme. C'est carrément un influenceur. Donc entre 2 et 5 millions par vidéo, ça commence à faire beaucoup. Et grâce à ça, y a des marques de baguettes, de peau, etc. qui l'ont endorsé. Mais c'est le seul en France. Tous les autres, même en faisant 50 000 vues par-ci, par-là, c'est déjà énorme. Faut pas compter se faire endorser par une marque avec ce genre de score, juste avec ça, exactement. Donc ça, et pareil, tout ce qui est drum cover, il faut s'en démarquer. Moi, je pense que soit il faut sortir des vidéos vraiment personnelles, soit des compositions personnelles, soit des solos, mais tout ce qui est drum cover, ça a déjà été fait 1000 fois pour faire... la cover de Thriller à la batterie qui a été faite un million de fois.
Les System of a Down qui font mal aussi.
Ouais, voilà, il faut se démarquer.
Toxicity.
Ouais, ça. Et après, les batteurs envoient ça aux marques en disant, regardez, j'ai fait la cover, j'ai fait 100 000 vues. Ça les intéresse pas parce qu'ils se disent, mais pourquoi on va t'endorser toi alors qu'il y en a 100 000 à côté qui le jouent aussi bien, aussi propre, voire même des fois avec des qualités vidéo supérieures. Donc pourquoi on va t'endorser toi? Faut que tu sortes du lot. Faut que t'aies vraiment une patte musicale personnelle, voilà, personnelle. Et il faut aussi, réfléchis pour pas rien oublier. Oui, en général, il y a ça c'est important aussi. Il y a beaucoup de batteurs qui me demandent, oui, j'aimerais envoyer des demandes d'endorsement en fait aux marques.
Ouais, c'est ça.
Voilà, des marques comme Zildjian ou Vic Firth, sur leur site internet Monde, ils proposent d'envoyer des dossiers de demandes d'endorsement. Moi, je vous le conseille pas du tout, parce que ça, je sais même pas à quoi ça sert, ce truc. C'est vraiment du côté marketing.
En fait, qui reçoit ça? Je plains le mec qui reçoit ça.
Personne. Ils reçoivent ça.
Ouais, les dossiers d'endorsement, je pense qu'il y a un type payé.
Et il y en a beaucoup qui me demandent et qui envoient les dossiers. Je leur dis, mais ne comptez pas avoir une réponse, c'est pas possible. Ça part aux États-Unis, ça va arriver à, je sais pas, Zildjian, je sais pas, c'est Boston ou bref. Et voilà, aux États-Unis, ils en reçoivent, mais j'ai même pas les chiffres, mais peut-être 10 000 par jour. Sur une année, ils en reçoivent peut-être des millions. Il y a quand même des centaines de millions de batteurs dans le monde. Donc des millions, c'est impossible. Vous serez forcément noyé. Non mais en vrai, même...
Faut pas compter dessus.
Ah oui, oui.
Faut vraiment pas compter dessus.
Je suis sûr que même si Manu Katché, il envoie une demande, on lui répond pas. C'est sûr. Il ne le voit même pas. Non, c'est vrai, c'est noyé.
Sur l'email, il n'y a pas marqué qui...
C'est même pas une personne, c'est contact, Zildjian, ça part, on n'aura jamais de réponse. Et franchement, voilà, je vous le dis très honnêtement, le boss de Zildjian en France, qui s'appelle Nicolas Meilleur, m'a confirmé, ce genre de dossier, ça sert à rien, vraiment. Et c'est le gars qui me l'a dit, hein. Mais ça sert à rien, ils ne vous répondront jamais. Ils ont tellement de demandes, c'est pas possible. Donc, le moyen pour être endorsé, c'est surtout de se faire repérer par une marque. C'est la marque qui va vous proposer, qui va vous repérer sur les réseaux, sur un festival, sur un concert, sur une vidéo. Des fois, c'est aussi bête que ça. Et c'est eux qui vous contactent. Parce qu'ils vont voir votre style et ils vont dire « Ah oui, lui, il a un style particulier qui nous intéresse. » La jeunesse aussi s'intéresse beaucoup aux jeunes. Parce que il y a beaucoup d'endorsés. Voilà, il y a Mazinjan, c'est des gars qui ont entre 35 et 50 ans. C'est quand même ceux qu'on voit à la télé, sur les Zéniths, c'est eux qui tournent beaucoup. Mais les jeunes, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Par exemple, chez Zinjan, nous, on n'est que 3 jeunes, entre 20 et 30 ans, ce qui est très très peu. Et c'est celle de promouvoir la jeunesse. Donc, voilà. Donc... Parfait. La marque, tu te souviens de ce... Big Fat Snare, tout à fait. Ouais.
Serait-ce des vies honnêtes ?
Serait-ce des vies honnêtes ?
Serait-ce des vies honnêtes ?
Non. Mais c'est vrai. Et il y a beaucoup. Et effectivement, c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est genre, oui, est-ce que si je mets des photos de bonne qualité, des vidéos de bonne qualité, où je mentionne la marque à chaque fois, est-ce que c'est pas possible ? Oui. Que ça là, c'est bien. Et il est focus et il mettait que des publications avec la marque. Ça, c'est bien. Il jouait déjà dessus.
Oui.
Oui, tout à fait. Exactement. Et ça, c'est bien. Et ouais, mais il faut mettre des photos de bonne qualité, des vidéos, les taguer, même des fois leur envoyer des messages privés ou sur les contacts mail leur envoyer des trucs. Et ça, ça peut leur faire plaisir. Parce qu'ils vont se dire, ah oui, il est sérieux, il nous fait de la pub alors qu'il n'est pas obligé. Par contre, il y a des batteurs qui me demandent ça. Est-ce que ouais, c'est bien si je tag et tout ? Sauf que je vais voir leur Instagram, par exemple pour les cymbales, et je vais voir que sur les 40 photos en dessous, il y a des Sabian, des Meinl, il y a de tout. Et ça, ils vont pas aimer. Ils vont dire, ah ouais, mais le gars, ils vont penser peut-être, ouais, ils veulent être endorsés juste pour avoir du matos. Alors que si sur ces photos, on voit par exemple que du Zildjian, et des photos de qualité, des vidéos, on va dire, ah ouais, lui, putain, il met le paquet, il aime Zildjian, ça se voit. Donc on va peut-être pouvoir lui proposer quelque chose. Donc ça, oui, ça peut marcher.
Ouais, effectivement, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Justement, c'est intéressant quant aux réseaux sociaux. Tu parlais de taguer la marque dans les posts, etc. Ça peut être intéressant. Justement, là où je voulais en venir, c'est que tout ça, c'est très mystifié, mais c'est pas magique. Aller rencontrer la marque. Tout bêtement, il y a des moyens de rencontrer les marques sur les salons.
Les salons, on en parle. C'est complètement ça.
Les gens sont présents. Il y a des humains derrière les ordi. Quoique, on ne sait pas. Mais voilà, donc si vous, il s'agit de créer une démarche, d'entrer dans une démarche où, sans être trop agressif non plus, parce que ça peut avoir l'effet escompté, enfin l'effet absolument inverse que l'effet escompté. Comme tu disais sur un Instagram qui est pourri, bon ben forcément ça va être compliqué, ça va même plutôt vous ficher. Et encore, ça veut dire qu'ils auront porté attention à vous. Mais quand même, créer du contact avec eux. N'hésitez pas à leur envoyer un message direct sur, je sais pas, Facebook, email, Instagram, selon les contacts évidemment des marques.
Je rebondis, moi, par exemple, pour quelques sponsors, par exemple Simpad, des petites mousses en caoutchouc, ou Skygel, les gels atténuateurs d'harmonique et tout. C'est moi qui leur ai envoyé une demande. Hein. C'est oui, moi qui leur. Voilà.
Ça peut se passer comme
c'est
ça.
C'est moi.
Aussi.
Hein. Je l'ai joué déjà avant. Le produit me plaît. C'était pas juste pour avoir un endorsement, voilà. Et c'est moi qui leur ai envoyé une demande. Et de là, ils ont mis à peu près 2 semaines à me répondre. Alors je me suis dit, ils ont pas vu mon message ou alors ils en ont rien à faire. Et en fait, non, ils m'ont dit après coup qu'ils ont regardé attentivement mes réseaux sociaux, si j'étais sérieux, le contenu, avec qui je jouais, les vidéos que je jouais, quel était mon style de jeu. C'est vraiment, même une petite marque comme ça, c'est que des petites, voilà, des petites mousses pour les cymbales, c'est pas énorme. Mais même ça, ils vont pas dire, oui, bah tiens, tu m'as envoyé un message, c'était gentil, on va t'envoyer les feutres. Non, pas du tout. Ils font quand même très très attention.
Ouais, je pense qu'il est important de noter un truc aussi, c'est pas inaccessible comme chose. Pierre et moi, on n'a pas 10 millions d'abonnés sur Instagram. En revanche, on a une image constante. travailler, ça c'est vraiment super important, on revient beaucoup dessus, mais c'est en fait c'est ça qu'ils cherchent chez vous, chez tout le monde, donc il faut, faut pas hésiter à y aller, c'est pas du tout inaccessible, même des très grosses marques, Yamaha, Andrem, c'est légendaire, Zildjian, c'est légendaire évidemment.
C'est les numéros 1 de la batterie et des cymbales.
C'est ça, c'est complètement. Donc ce sont des choses qui sont possibles à partir du moment où vous faites bien les choses. N'hésitez pas à aller au contact de ces gens-là. Il y a autre chose qui... Alors, c'est pas exactement, justement... Ça me paraît important de soulever un autre point, c'est qu'il n'y a pas que l'endorsement qui existe aussi, tout bêtement. Je sors un peu du cadre, mais des partenariats avec des marques qui ne sont pas... Alors, actés par un contrat ou non, mais qui n'ont pas le nom endorsement, ça existe complètement. Il y a plusieurs marques avec lesquelles je bosse où on a une relation de confiance qui n'est pas actée par un contrat. Je reprends l'exemple d'Alexandre Hernandez là-bas. Coucou monsieur à la chemise bleue. T'es fiché. Où j'ai la chance de bosser avec. Ouais, c'est vrai ça. Scandaleux. Mais non, mais voilà, ouais, c'est ça. Attends, je te le sors. Je vais te payer un verre après, on va voir ça. Non, mais voilà, tout ça. En fait, l'idée c'est simplement qu'il y a par exemple les pédales Anasound sont des pédales que je connaissais déjà. Que j'utilisais avec un plaisir immense que j'adorais. Au bout d'un moment, sur un salon, on s'est rencontré avec Alex et ça a été l'amour fou. Mais voilà, à partir de là, il y a jamais. Voilà, on s'est plus quitté. C'était le début de la fin. Non. Plus sérieusement, on a fait énormément de choses ensemble. Moi, pour mon côté démonstrateur matos plus que Sideman, on part régulièrement en tournée ensemble avec Anasounds dans le monde entier. Pour faire la promotion des produits sur des salons, dans des magasins, sur des événements. On organise des événements de masterclass, de workshop, etc. Tout ça n'est pas acté par un contrat d'endorsement. Et pourtant, je pense que c'est vraiment une des relations les plus solides que j'ai aujourd'hui avec une marque et qui compte énormément pour moi. Donc, il y a... Oh, c'est trop mignon. Non, mais plus... Sans... Vraiment, c'est pas... Enfin... Ça me paraît important de le dire parce que l'endorsement n'est pas une fin en soi. Surtout, il s'agit le pire qui puisse vous arriver, je pense, c'est d'afficher 40 marques sur votre compte Instagram dans la description, endorser là, 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 et en fait de ne pas exister, de ne rien faire pour, avec eux. Ça, c'est vraiment le pire truc qui puisse vous arriver. On en connaît tous des gens comme ça qui... C'est terrible, ouais. Parce que c'est complètement contre-productif.
Et surtout, alors pareil, et surtout, j'ai vu qu'il y a eu quelques petits scandales sur Internet aussi. Il ne faut pas mentir et dire « je suis endorsé » quand c'est un partenariat.
Oui, ça, c'est,
mais et ça, ça se fait ça, beaucoup. Et ça n'a rien à voir. Par exemple, sur une tournée, par exemple, la production va devoir forcément louer une batterie pour la tournée. Donc, par exemple, ils vont s'adresser à Yamaha et dire « Est-ce que vous pouvez nous prêter une batterie et comme ça, on vous fait de la visibilité quand même. C'est 20 dates dans des zéniths, quand même, c'est génial. » Voilà. Et le batteur de la tournée va dire « Ah, ben, je suis endorsé Yamaha parce qu'il y a un partenariat. » Et là, par contre, c'est pas du tout ça. C'est pas le batteur qui est endorsé. C'est la prod qui a un partenariat avec la... Oui. Avec la marque, ça c'est très différent. Ça, et il y a eu déjà des histoires
là-dessus. On y pense tous les deux.
Ou pareil, de toute façon, voilà, je citerai aucun nom. Mais c'est important aussi. Et du coup, un batteur qui a une école, par exemple, qui a un partenariat avec une marque, par exemple, et ce n'est pas un endorsement, c'est pas lui qui est endorsé, c'est l'école qui a un partenariat avec la marque. Le souci, c'est que. Quand tu mets après je suis endorsé par là sur le site internet, après il y a des gens qui vont voir et qui le voient pas sur le catalogue ni sur la liste des endorsés. Et en cherchant un peu, on s'aperçoit que c'est qu'un partenariat. Et ça, les marques, s'ils le voient pas, les gens de la marque ne le savent pas, ça passe. Mais quand ils l'apprennent, ils sont pas contents.
Le problème de se proclamer endorsé, ouais. C'est que ça attire l'attention de la marque sur vous parce que son nom apparaît. Et ça c'est vu directement, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui parcourent les réseaux sociaux chez les marques pour trouver des gens, vérifier leur image, etc. C'est un travail colossal, mais qui du coup est fait. Donc ces marques-là vont le voir immédiatement. Et alors, bon, évidemment, vous voyez quel effet ça va faire. Vous êtes foutu à ce compte-là. Ça ne sert à rien.
Vous êtes grillé. Mais c'est grillé. Dans ce milieu, tout va tellement vite que ça va faire le tour de toutes les marques. Voilà, confondues, c'est fini pour vous.
Non, mais c'est vrai.
Alors, c'est pour ça que c'est. Faut faire attention.
c'est un peu terrible ce qu'on dit, mais de l'autre côté, c'est terrible. Non, ça paraît évident quand on le sait, mais c'est bon à rappeler quand même, effectivement. Mais de l'autre côté, soyez persévérants, c'est-à-dire n'acceptez pas forcément je pense pas qu'il faille accepter un deal d'endorsement parce qu'on nous en propose un.
Exact.
Ça va dans les deux sens. Si une marque que je connais pas me contacte demain, ça arrive régulièrement en plus, je vais aller voir cette marque. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais aller essayer leur matos, etc. Si ça ne me convient pas, que j'ai pas envie de m'engager durablement avec cette marque, ça ne marche pas. Au contraire, quand j'ai une marque que j'aime particulièrement et avec laquelle je sais qu'il est possible dans le futur de faire des choses, je pense qu'il est important d'être persévérant sans harceler les gens, parce que bon, ça, c'est, humainement, c'est insupportable. Mais il faut... une marque remarque la fidélité aussi. Tu vois, tu parles, ouais, de Yamaha qui t'a remarqué comme ça, en fait. Tu jouais sur Yamaha, et au bout d'un moment, ils t'ont dit, bon, tu vas faire quelque
c'est
chose.
C'est ça, parce que j'aimais le produit et j'étais à fond dedans. Ouais.
C'est ça. Donc ça me paraissait important de soulever ça aussi.
Cool, bah merci beaucoup les gars, c'était super. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que les marques ont un droit de regard sur votre choix des artistes?
Alors, non, par contre ils peuvent nous conseiller.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, par exemple ils peuvent nous conseiller, mais ils n'ont pas le droit de nous imposer quelque chose. Par exemple...
Lisez vos contrats.
Non, par exemple, moi, l'objectif à terme, moi j'aimerais aller dans la pop, faire des tournées de variété ou des émissions télé. Voilà, par exemple, je prends un exemple, N'oublie pas les paroles sur France 2, par exemple. C'est Damien Schmitt qui est en ce moment. J'adorerais, j'en ai parlé un peu déjà avec lui, mais j'aimerais bien, à la limite, s'il s'en ira un jour, peut-être le remplacer. Ou voilà, c'est un rêve. Donc. Ça, j'en parle toujours aux sponsors, je leur demande toujours mon avis, leur avis, pardon. et en général, voilà, soit ils me disent, oui, ça peut être un bon choix, ou alors, non, c'est peut-être pas le moment. Ou voilà, Yamaha, par exemple, ils m'ont dit, t'es un peu jeune pour faire ce genre de plan. C'est de la variété. Si tu t'enfermes là-dedans, tu vas y rester 5 ans. Si tu vas t'enfermer là-dedans, tu vas avoir l'étiquette variété après, tu vas être bloqué. Vaut mieux que tu fasses de la musique qui te plaise d'abord, avec des groupes, tourner, plutôt que t'enfermer dans un truc comme ça. Donc, toujours ils me conseillent, mais parce que c'est la famille, que je les connais par cœur, donc je leur demande leur avis, comme je demande l'avis à mes parents ou à des amis, quoi, c'est exactement pareil.
Après, il y a aussi le cas où vous pouvez bosser des fois pour des artistes qui ont une image hyper marquée, hyper solide avec une marque. Des artistes qui sont complètement associés à PRS, à Gibson, à Yamaha, à n'importe quoi. Dans ce cas-là, c'est pas spécialement déterminant comme truc. Il peut y avoir des espèces de, comment dire, de débordements où vous allez pouvoir bénéficier de l'image d'un artiste qui, je prends un exemple de John Mayer qui est sur PRS par exemple, j'en parlais tout à l'heure donc ça me revient. Je pense que si ces musiciens en demandent, ils peuvent avoir un accès privilégié à des PRS. Ça me paraît pas bête. Maintenant, encore une fois, il s'agit d'être modéré, de savoir ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de bosser. C'est comme dans tout réseau professionnel en fait. J'ai foutu un plan. D'autres questions aussi. Faut structurer dans le boulot en fait.
Ouais. Excuse-moi. Pour moi c'est un mélange, c'est un tout. Genre il faut aussi jouer sur scène avec d'autres musiciens et des concerts. Et aussi assurer la partie batterie, genre, ou guitare, notre instrument, et faire des démos, etc. Sachant qu'il y a des musiciens qui font exclusivement des démonstrations et qui jouent pas sur scène avec d'autres musiciens, et des musiciens de tournée qui vont dire « Ah non, mais moi, les démos de batterie, les masterclass, ça m'intéresse pas, c'est nul, ils en mettent partout, on comprend rien. » Enfin bon, voilà. Ah non, du tout.
Pas du tout. Mais ça, c'est justement ce que je disais quand je disais qu'il faut structurer. Tout bêtement, je pense à c'est Nico Defer qui m'avait fait faire ça au départ. Ouais. Oh Nico, on t'aime.
Nico.
Nico.
Le bro.
Saint-Etienne, non. C'est pas vrai.
Vous avez perdu en plus, ils ont perdu.
Non, plus sérieusement, les private jokes au micro, c'est immonde. C'est dégueulasse, je suis désolé. C'est dégueulasse. Bon, l'idée étant simplement... ça y est, tu vois, je sais plus où je voulais en venir. C'est génial. Je fais le con.
Oui, voilà, pardon. C'est, voilà, c'est en tout bêtement, en début d'année, ce que je fais tout le temps, et à des c'est me faire un échéancier, tout bêtement, me dire dans 6 mois, je veux avoir fait ça, 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 dans 1 an, je veux avoir fait ça, 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 le mettre à jour en permanence, mais du coup aussi, tout ça est complémentaire. Tu peux ne faire que de la démo, auquel cas, bon, bah, tu feras jamais de scène de concert. Moi, c'est un truc qui me pèserait profondément. Avant de faire de la démo, je suis musicien de tournée. C'est vraiment ça, mon boulot. Du coup, j'axe toutes mes démarches autour de ça, en revanche. Et au-delà de ça, bon, bah, du coup, j'enrobe le tout et je le rends vraiment complémentaire. Ça dépend de la démarche que tu as. Il s'agit de faire le point de temps en temps, en fait, tout bêtement. Si tu fais que de la démo pendant 6 mois, bon, bah, tant mieux, tu as du boulot, mais pose-toi la question si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ouais, tout bêtement.
Et pas tomber dans le piège de la démo aussi, en mode ça tombe dans la technique, en mode le piège YouTube un peu, ouais, aussi, genre ouais, je fais une démo, faut que j'en mette partout pour impressionner tout le monde, alors que bah, pas du tout, faut rester musical aussi, parce que la batterie, voilà.
Ah non.
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 T'es forcé, toi.
Je suis mort, je suis foutu.
Alors la com, pour parler de la com, ouais, dans certains contrats, par exemple, moi, chez Ziljan et Vic First, c'est quand même bien mentionné, en échange d'un prêt de cymbales ou de dons de baguettes ou autre, vous devez, et là il y a 14 tirés, genre... faire la promo de la, ouais, voilà, par exemple, exactement, faire des démos pour la marque, mettre des photos régulièrement avec la marque, parler de la marque sur une interview, si on a interviewé pour un magazine, pour une vidéo, parler de la marque. Donc il y a quand même des choses à faire. Après, je pense, quand on est endorsé, on se force pas à faire ce genre de choses. En tout cas, moi, c'est vraiment une passion, j'adore faire ça, prendre la photo de la batterie sur Instagram et mettre voilà, aujourd'hui je joue ça, ça, ça. Enfin, je sais pas, je suis tellement passionné que c'est pas une contrainte. Et quand ils me proposent, c'est vrai que c'est bête à dire, mais quand ils me proposent une démo ou un festival ou autre, moi je suis, c'est Noël. Non, mais vraiment, c'est genre, mais c'est génial, je vais faire une démo, une masterclass, je vais présenter les produits. Vraiment, c'est tellement une passion que, alors là, je leur dis, mais proposez-moi tous les jours si vous voulez des démos. Enfin, je me force pas. Mais ils nous forcent pas à dire, par exemple, oui, toi, Pierre, dans un mois, tu vas aller faire la démo à Toulouse dans ce magasin. Genre, t'as pas le choix. Ils me disent, est-ce que ça t'intéresserait? On a pensé à faire une démo dans le magasin, présenter les produits. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Bon, en général, je vais pas dire non parce que j'adore ça. Mais si j'ai une date de concert qui tombe en même temps, ils vont pas me faire la gueule en mode, ah ouais, tu privilégies une autre date plutôt que notre démo, tu sais, bon, voilà, hein, on sait jamais. Donc ils sont quand même très cool. Ouais. Voilà, ils me proposent. Ouais. Non.
Pas forcément. Non.
Non. Même en général.
Jamais. Non.
Même en général, pas du. Et en général, non, ce n'est pas gratuit. On a, comme disait Swan, on a un cachet d'intermittent. Pour une masterclass qu'on fait, par exemple, on va être 1h30, bah, je vais être avec la batterie, je vais jouer mes morceaux, les gens me posent des questions, la technique, le parcours, tout. Donc c'est un travail comme un concert, il y a de la concentration, il y a de la préparation, surtout il y a du temps consacré, on fait un déplacement, donc c'est quelque part c'est logique qu'on soit payé pour ça. Un festival de batterie, on va être payé aussi, parce qu'on représente la marque, donc tout le public qu'il y a dans la salle. Ben, les plus jeunes, par exemple, ils vont s'identifier à nous, ils vont dire, ah tiens, Swan, il joue telle guitare, ou Pierre joue telle batterie. Donc, un mois après, ils vont dire à leurs parents, tiens, tu peux acheter la même batterie, tu vois, un truc. Et c'est ça le but, hein.
On en a toujours, hein.
Et au final, c'est ça, c'est qu'ils vont acheter le même matériel que les. Ouais, son idole, ou les gens, voilà, le batteur qu'il a vu sur scène. Donc, c'est aussi donnant-donnant.
Ils peuvent mettre à disposition du matériel d'enregistrement, de trucs comme ça.
Oui.
C'est un contrat professionnel, donc ils vont pas te laisser dans.
Non.
Ils vont pas te laisser dedans. j'ai pas de caméra, oui, que j'ai pas de moyen d'aller prendre. Enfin. Oui. Non, c'est
En fait, c'est aussi bénéf pour eux que pour nous. Enfin, voilà. Moi, il y a 3 mois, pour un exemple perso, j'ai enregistré une vidéo promotionnelle dans leur showroom et c'était payé par Yamaha, du coup, et on présentait un nouveau produit, un nouveau module qui est sorti, voilà. Donc là, ils mettent les batteries à disposition, les caméras, les lumières, le montage, ils s'occupent de tout. Et c'est aussi c'est bien pour eux parce qu'on fait quand même de la pub pour leurs produits et c'est diffusé après partout. Et c'est bon pour nous aussi parce que ça, ça se voit qu'ils nous font confiance. Et nous aussi, on va pouvoir le partager. Et ça crée du contenu et nous, ça fait de l'actualité pour nous aussi. Genre, on est fiers de dire « Ah ouais, j'ai fait une vidéo pour eux, c'est quand même cool. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endorsés, donc ils sont obligés de cibler un peu le profil qu'ils veulent pour telle vidéo. Voilà, un batteur de rock pour la présentation d'une nouvelle batterie rock ou alors un batteur plus jazz pour la nouvelle jazzette qui vient de sortir. Donc, c'est bien, ils ont beaucoup d'endorsés, mais beaucoup de profils différents, donc ils peuvent trier et sélectionner les gens qu'ils veulent.